Devant moi, en studio, ça fait longtemps, c'est rare que j'ai de la visite et ça me stimule et ça me stresse en même temps, mais je suis bien contente. On s'est rencontrés hier au théâtre,
oui,
en plus. On se connaît,
oui.
On se connaît,
oui,
on s'est parlé 5 secondes. Alors, il s'agit de David Strasbourg.
C'est moi.
Très joli nom.
Merci.
Hein, c'est un nom de
merci
famille.
Bien.
Ici, on a un Nicolas Wartman et puis devant moi, on a un David Strasbourg. Alors, à la Petite Licorne, en ce moment, jusqu'au 13 mai, il y a une création du Britannique. Est-ce qu'on le prononce Ridley?
Ridley.
Ridley.
Ouais.
Philip Ridley.
Ouais.
Vermine radieuse, en anglais, c'est...
Radiant Vermin.
Oui, alors voilà. C'est vraiment une traduction littérale.
Oui.
Et justement, cette pièce a été traduite par Marie-Claude Verdier. Mise en scène par David Strasbourg, qui est aussi comédien et qui est là. Donc, Vermine radieuse, quel titre, mais quel bon titre! On comprend
bon titre,
tout
hein?
Quand on,
oui.
on voit la pièce. Est-ce que le propos, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la pièce, parce qu'elle vient juste de prendre l'affiche, malgré que la première fois qu'elle a été présentée, c'était en 2015.
Oui, exactement.
En Angleterre.
En Angleterre, il y a eu des reprises en France aussi, puis
oui.
C'est la première fois, je pense, en Amérique du Nord.
Cette
si
pièce de cet auteur-là,
ouais.
qui est quand ouais. même assez populaire. Il y a d'autres pièces de lui qui ont été montées.
Oui, oui, oui. Il y a eu Vincent River au Katsu il y a quelques années. Puis c'est un auteur qui écrit aussi beaucoup pour le cinéma, la télé et là-bas. Là.
Oui, un poète.
Ouais.
Il a plusieurs cordes à son arc. Alors, Vermine radieuse, c'est quoi le rapport là, avec le titre? Quel est le propos de la pièce? Qu'est-ce qui se cache derrière Vermine radieuse? Sans peut-être trop en dévoiler.
Ouais,
hein?
Ouais, ouais, ouais. On pourrait y aller avec... c'est l'histoire de Julie, Olivier, un jeune couple dans la jeune trentaine.
Ouais.
Ça aurait pu être un jeune couple dans la jeune vingtaine. Mais leur objectif dans la vie, c'est de s'acheter une maison, d'accéder à la propriété, comme beaucoup de jeunes couples... dans la vie, on valorise beaucoup ça, là, mm-hmm. Finalement, l'achat d'une propriété. Et un jour, ils se font approcher par un étrange personnage qui vient au nom du gouvernement. Puis là, vous le voyez pas, mais j'ai fait des guillemets à gouvernement. et cette personne-là leur donne une maison, gratuitement, dans un quartier un peu défavorisé. C'est-à-dire qu'il y a juste personne, c'est un quartier en développement. Et cette maison-là est un peu décrépite, mais elle est gratuite. Et... par un concours de circonstances dont je vous épargne les détails, ils vont se rendre compte que pour rénover la maison, ça va coûter très, très cher en termes de vie humaine. On pourrait y aller
ouais.
avec ça. Mais voilà.
C'est extrêmement troublant. Il y a quelque chose de cruel. C'est bien écrit. Au début, on se demande où on s'en va avec ça.
Ouais.
Et puis, à un moment donné, on est complètement happé par cet univers-là. Il y a quelque chose de profondément original. Parlez-nous de la distribution, David.
Oui, alors j'ai une magnifique distribution. Il y a Michel-Maxime Legault qui joue Oli, l'homme du couple. Anne-Marie Binette joue sa conjointe. Et notre étrange personnage du gouvernement /agent immobilier, ouais, très flamboyante. On a Sylvie Moreau, que vous connaissez probablement, qui est sublime aussi dans ce rôle-là.
Les deux acteurs que vous avez nommés en premier, là, qui incarnent Oli et Julie.
Oui.
Est-ce que ce sont des comédiens de Montréal ou de Québec? Anne-Marie Binette et Michel-Maxime Legault, je ne les avais jamais vus sur une scène et je vais souvent au théâtre.
Bien, Michel-Maxime Legault, c'est le producteur aussi de la pièce, c'est-à-dire le Théâtre de la Marée Haute, c'est la compagnie qui produit. Michel-Maxime, c'est un acteur de formation qui est devenu aussi metteur en scène. Et moi, Michel-Maxime, je l'ai rencontré quand moi j'étais à l'école de théâtre il y a 10 ans. Il avait fait une mise en scène avec ma cohorte de finissants. On s'est très bien entendu, puis on s'est toujours dit un jour, on va se trouver notre projet.
Moi, et je voulais c'est arrivé 10 ans plus tard.
10 ans plus tard,
wow.
On a trouvé le texte. Moi, je voulais faire de la mise en scène. Lui, il voulait jouer dans le spectacle. Fait qu'on on a un peu inversé les rôles. Puis c'est la première fois, je pense que La Marée Haute était pas loin de sa 10e production. Puis c'est la première fois que la mise en scène est confiée à quelqu'un d'autre que Michel-Maxime, en ma personne. Donc, c'est un honneur.
Et je comprends.
Et
Anne-Marie?
Anne-Marie, c'est une comédienne de Montréal. Elle étudie au Conservatoire de Montréal. Vous pouvez la voir en ce moment dans la 2e saison de C'est comme ça que je t'aime.
Ah oui, pas extra. Alors, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas encore découvert.
Mais tranquillement, elle fait son chemin au petit écran. Là, vous allez la voir de plus en plus parce qu'elle est excellente.
Excellente. Ouais. Et ils doivent avoir un plaisir fou à jouer leur personnage qui, à un moment donné, se démultiplie. Parce qu'ils jouent aussi, ils incarnent d'autres personnages, parce que cette maison-là qui est seule va finir par être entourée, par être habitée par d'autres, par des voisins.
Oui, exact.
Et ils vont interpréter les voisins lors d'un party.
Oui, on est vraiment dans une esthétique de plateau vide. Il n'y a pas d'accessoires, pas de décor.
Oui, ça, c'est votre choix, vous.
C'est mon choix, parce que le texte est écrit. J'aurais pu prendre la décision de vraiment replacer chaque flashback.
Que ce soit très réaliste.
C'est ça. Ouais. Mais Oli et Julie rentrent sur scène, ils viennent s'adressent directement au public et ils nous racontent un peu leur histoire. Comment ils ont eu cette maison-là et ce qu'ils ont dû faire pour la rénover. Donc, on est vraiment dans une adresse directe au public. Ils nous racontent le récit. Fait que je voulais pas... Les moments où on a des flashbacks, où on revit un peu des scènes du passé, je voulais pas nécessairement qu'on... Tout d'un coup, un quatrième mur se crée, puis là, on est vraiment dans le passé. Je voulais tout le temps garder ce rapport-là avec le public, un peu comme ils font dans la populaire série The Office. Il y a tout le temps la caméra qui est là, même s'ils vivent leurs activités au quotidien, la caméra fait partie de l'ambiance, donc il y a tout le temps ce regard-là porté sur nous.
Ouais.
Donc le regard du public est super important pour les personnages parce qu'ils veulent se déculpabiliser des horreurs qu'ils ont commises. Mais il essaie de fuir un peu dans le récit comique, dans la façon de raconter. Ça donne vraiment un échange avec le public que je trouve super intéressant.
Et l'idée de la scène vide, ainsi que il y a plusieurs spots, plusieurs,
oui.
Comment on dit ça en français?
Projecteurs.
Projecteurs, oui, merci. C'était quoi l'idée de mettre plusieurs projecteurs? C'est pour nous faire... pour nous rappeler qu'on est toujours dans quelque chose d'inventé, dans une représentation théâtrale?
Ouais, je voulais pas cacher le théâtre. Pour moi, c'est dans tout ce que je fais, je veux jamais cacher le théâtre. Je trouve ça important de qu'on comprenne qu'on
est ici dans une...
Oui, on est ici dans une représentation. Et j'ai travaillé avec Cédric Delorme-Bouchard, qui a fait la scénographie et les éclairages. Un grand artiste, il est arrivé avec des propositions super intéressantes. Donc, le décor, on a un plateau blanc et un plafond en angle dans lequel il y a des encastrés, des lumières encastrées. Mm-hmm. Puis pour moi, le symbole de l'encastré dans les nouvelles constructions modernes, plus t'as d'encastrés, plus c'est haut, donc riche et coûteux.
Ah, ouais,
oui. C'était, pour moi, le symbole était fort. Puis de chaque côté, on a des murs de projecteurs pour que l'éclairage vienne principalement de la scène et non de la salle,
mm-hmm.
pour qu'on ait tout le temps l'impression d'avoir cette espèce de boîte blanche devant nous, éclairée un peu comme un... L'idée de départ, c'était un peu d'en faire un studio d'infopub. Ils arrivent au départ, c'est tout blanc, ils viennent nous vendre le projet pardon, des maisons de rêve. Donc c'était
maison
ça l'idée de départ.
Maisons de rêve,
oui.
Le rêve qui tourne à quelque chose d'autre. Est-ce que c'est vrai que c'est la traductrice de la pièce, elle s'appelle Marie-Claude Verdier, qui vous a approché pour mettre en scène
oui.
Vermine radieuse?
Absolument, oui, Marie-Claude, que je connais depuis un petit bout de temps déjà, que j'appelle affectueusement ma pocheur de pièces de théâtre, qui a tout le temps, qui arrive tout le temps à dénicher des petits trésors, puis est arrivée avec ce texte-là, m'a proposé ça à moi et Michel, puis on a sauté dessus, là, on l'a envoyé tout de suite à la licorne, puis je pense que ça a piqué l'intérêt assez rapidement. Donc après ça, on lui a demandé de faire la traduction, et le projet a démarré comme ça.
Et c'est bien traduit, moi j'ai pas lu le texte, la pièce dans le texte, là, mais ça coule, c'est naturel.
Oui, oui,
et puis,
oui.
Bon, les acteurs sont bons, là, ils ont vraiment les répliques dans...
Oui.
C'est en bouche, là, ça sort bien.
Mais si je peux me permettre, oui. Marie-Claude, elle a fait un travail exceptionnel parce que l'original est beaucoup plus long que ce que vous avez vu hier. Vraiment plus long, là. Si on n'avait rien coupé, c'est quasiment un show de 2 heures.
Oh! Là, ça dure quoi? J'ai même pas calculé.
1h28 hier, exactement.
Puis, vous étiez dans la salle?
J'étais dans la salle. Et ce qu'on a, on a décidé d'enlever beaucoup de références à Jésus, à le bien, le mal, l'enfer, le paradis, mm-hmm. parce qu'il y avait beaucoup de ça dans la version originale. Il y a un moment où Oli se déguise en prêtre pour retrouver ses victimes, mais il y avait aussi un moment où Julie se déguisait en bonne sœur. On a coupé ça parce qu'il y avait beaucoup aussi de notions, il y avait beaucoup de notions hétéronormatives, elle, il faut qu'elle s'occupe des victimes femmes parce que c'est une femme et lui des victimes hommes parce que c'est un homme.
Ça a été écrit en quelle année, cette pièce-là?
2015, mais tu sais, il y a des racines, je sais pas, protestantes ou un peu plus ancrées, comme alors qu'ici, ça avait moins sa place. Puis on a enlevé aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de références à lui, c'est l'homme, donc c'est lui qui est Manuel, elle, c'est la femme, donc c'est elle qui décore. T'sais, on a tout enlevé ça parce qu'on voulait que ce soit un couple j'aurais pu choisir de mettre deux hommes, deux femmes. Ouais. C'était un couple, tout simplement. Fait que chacun...
Mais vous n'avez pas dénaturé le...
Mais on n'a pas dénaturé le propos.
Le message, ben, le propos de base. Là.
Non, exact.
Mais parlez-nous des thèmes parce... ou du ton avant, là, parce que de la manière dont on en parle, ça a l'air, oui, de quelque chose d'inquiétant, de comment dire, amoral ou immoral.
Ouais.
Mais il y a ça, il y a du sombre, mais il y a aussi du drôle. Là.
Oui, oui, ben oui.
Le ton de la pièce.
On est dans une fable, on est dans de l'exagération, on dénonce une gentrification qui se fait dans plusieurs quartiers des grandes villes, mais on y va dans vraiment... une grande, grande exagération pour aller chercher le côté comique.
Mm-hmm.
La réflexion passe mieux par le rire. On rit, puis plus la pièce avance, plus on se met à rire jaune, puis à se dire, mon Dieu, c'est très horrible tout ça.
On rit de la même couleur
que le soupe de Miss D, interprété par
Sylvie Moreau, pardon, qui fait un bon travail aussi, oui. Qui joue un autre personnage, mais on n'en dira non plus. Ben, je veux pas que les gens se disent, ben, coudonc, j'arrête pas de dire, on n'en dira pas plus, là, mais on en dit quand même suffisamment.
Ben, je pense que c'est intriguant. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Julie Pioli, ils ont cette maison, ils vont faire des rénovations qui vont coûter des grands sacrifices humains, mais je pense qu'on peut laisser
on
le
peut
mystère
s'arrêter
à partir
là.
De là.
Et pensez-vous que quel était l'objectif de cette création, d'après vous? Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire par là? Réveillez-vous, parce que là, vous êtes en train de perdre vos repères, perdre les pédales par rapport à cette volonté de toujours avoir plus beau, plus grand.
Ouais. Ben c'est clairement une critique sur la société de consommation, la surconsommation, toujours le désir d'avoir une maison plus grosse que celle que son voisin. Ça fait partie du capitalisme et de la société dans laquelle on vit. Fait que pour moi, il a dressé un portrait... assez sombre dans l'humour quand même de comment fonctionne notre société. On a la classe moyenne interprétée par Julie Oli.
Oui,
qui
ils
se font
vivent
vendre...
quoi, dans un petit appartement dans l'est de la ville.
Exactement.
Mais ils veulent plus, puis là ils se font offrir cette maison de rêve gratuite.
Exactement.
C'est difficile de dire non, mais à un moment donné ils vont se rendre compte que le prix à payer est énorme, mais ils vont se laisser comme avaler par ça.
Absolument, parce qu'ils se font vendre du rêve, parce qu'ils se font tout le temps bombardé de publicités, de produits qui n'ont pas les moyens de s'acheter, mais on sort de notre maison, puis des panneaux partout, puis c'est tout le temps acheter, 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 consommer, voici le nouveau bidule, encore plus cool que le bidule d'avant. Les gens qui font ces publicités-là, qui contrôlent un peu le marché, sont représentés par Sylvie Moreau, qui joue Miss D, qui est cette espèce d'agente immobilière-là qui vend du rêve, mais qui sait très bien que le rêve a un prix et c'est pas elle, la riche, qui va faire la sale besogne. Elle va s'arranger pour que la classe sociale en dessous d'elle fasse la sale besogne, fasse le ménage, et c'est elle à la fin qui a accès au divin nectar qui est le champagne, qui représente un peu la réussite.
C'est ça fait réfléchir aussi, c'est qu'est-ce que ça vaut réellement un être humain? Quelle est la valeur d'un être humain? Qu'est-ce qui fait la valeur d'un être humain?
Oui, exactement.
Est-ce que ce sont ses possessions ou ce qu'il a à l'intérieur de...
Ses valeurs, sa façon d'interagir avec les autres, ou c'est, comme vous dites, sa maison, son garage, ses trois garages, sa Lamborghini. On accorde beaucoup, beaucoup d'importance aux possessions matérielles, et ça depuis toujours, mais c'est bien des fois de se rappeler que peut-être qu'on devrait mettre notre effort ailleurs.
Oui. Jusqu'où on peut aller justement pour atteindre ce but-là? Ça peut devenir dangereux.
Oui.
Et il y a quelque chose d'inadmissible là-dedans. Vous êtes comédien. Est-ce que ça vous aurait tenté de jouer dans cette pièce-là?
Celle-là, quand j'ai reçu le texte, tout de suite, je me suis mis en mode de metteur en scène. Puis ça m'allumait vraiment de le monter.
Mm-hmm.
Moi, j'ai un grand privilège dans la vie. J'arrive quand même à faire un peu des deux, c'est-à-dire à jouer et faire la mise en scène. Si je peux continuer à avoir un 50-50 comme ça dans ma carrière, moi, je vais être comblé.
Est-ce que vous aimez
bonheur.
Autant être acteur que metteur en scène?
J'aime autant les deux. Ouais, oui, j'aime autant les deux. Être interprète, souvent, c'est... Je veux pas dire plus facile, là. Au contraire, c'est une grande charge de travail, mais il y a de quoi de...
Vous vous concentrez sur votre propre rôle à vous.
Exactement.
Tandis que metteur en scène, vous pensez à tout. Là.
Exactement. Acteur, ouais. On doit... Bon, OK, moi, j'ai ma partition à faire, à livrer. On m'a dit quoi faire, j'obéis d'une certaine façon, puis je travaille de pair avec le metteur en scène. Alors que faire la mise en scène, là, c'est challengeant à tous les niveaux. C'est éclairage, son et dramaturgie. C'est vraiment de créer un produit complet, puis tous les yeux se revirent tout le temps vers vous. Faire « OK, c'est quoi la décision à prendre? » Et ça, j'adore ça aussi, ouais. Même si c'est une autre sorte de stress.
C'est une responsabilité encore plus lourde, peut-être?
Ben, quand on a un bon texte, on peut...
Et qu'on est bien préparé,
c'est moins lourd. Ouais. On se prépare en avance, puis on essaie de comprendre pourquoi on monte ça, qu'est-ce qu'on veut dire. Puis la plupart du temps, ça se passe bien.
Et c'est une première pour vous, là, de montrer votre travail dans un théâtre institutionnel?
Dans un théâtre institutionnel, c'est la première fois. Donc, en plus, à Petite Licorne, un théâtre que j'affectionne particulièrement.
Ah oui, parce que dans le théâtre La Licorne, il y a la grande licorne, la grande salle, et la Petite Licorne. Et souvent, il y a des bijoux dans cette petite salle-là.
Ah, j'ai vu des spectacles qui m'ont marqué à la Petite Licorne là, depuis une dizaine d'années. Il y a souvent des très bons spectacles.
Oui, et c'est bien pour le public aussi parce qu'on est très, très près de la scène.
Oui, puis pour cette pièce-là, c'est encore mieux parce que, comme on disait tantôt, c'est une adresse directe au public. On regarde les gens dans les yeux et les personnages vont s'adresser à vous pendant la pièce.
Oui, j'ai même levé la main à un moment donné.
Oui, à un moment donné, les personnages vous demandent de voter sur une question plus ou moins éthique.
Est-ce qu'on rénove tant d'abord?
C'est ça.
Oui, et vous avez une conseillère en mouvement, Natacha Filiatro.
Natacha Filiatro, qui est une chorégraphe, comédienne et danseuse de formation, qui m'a beaucoup aidé avec le mouvement. Parce que, comme on disait tantôt,
surtout les acteurs
oui,
et actrices.
Exact. Ouais. Parce que les personnages, Julie et Oli, vont, à travers la pièce, interpréter tous leurs voisins. Donc, ils changent de personne. Il y a une scène en particulier où ils changent de personnage à chaque réplique. Et tout se traduit dans le corps. Et ils sont, pour vrai, incroyables dans cette scène-là.
C'est parfait, je me disais. Ça a été, j'imagine, beaucoup de travail parce que là, ils arrivent à faire tous les personnages avec un geste, un ton de voix et on reconnaît tous les personnages. C'est vraiment, c'est de l'ordre de la performance.
Ah oui, ils sont vraiment impressionnants. Puis pour terminer avec ça, Natacha aussi, elle m'a aidé à, tu sais, la lettre. On interprète tous les mouvements avec le corps.
Voilà. Ah oui. Ben, David de Strasbourg, ça a été un plaisir de parler avec vous. Il faut aller voir cette pièce Vermine radieuse à la Petite Licorne et c'est jusqu'au 13 mai.
16 mai. Et on vient d'ouvrir...
Ah, il y a des supplémentaires?
Oui, on vient même d'ouvrir le 17.
Super, merci.
Au plaisir. Revoir.